Europe 1.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipée sauvage, deux heures d'une chevauchée mouvementée à la frontière de l'info et du rire avec Eva Rock derrière moi en Amazon. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes chaque après-midi la grande arbitre de cette compétition qui oppose les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G. Et en plus, comme vous êtes par nature généreuse, vous nous guidez également dans la jungle des programmes télé. Parviendrez-vous à être aussi fluide que la semaine dernière?
C'est une série très irrévérencieuse. Oh là, je vais y arriver.
Ou pas, on croise les doigts.
Vous n'y êtes pas arrivé
mais,
non plus. Hein.
Je ne suis pas arrivé non plus, c'est vrai. Mais d'abord, accueillons notre invité d'honneur cet après-midi. Alors, cette fois déjà, on a bien vérifié avec lui avant de prendre l'antenne. Il est bienvenu pour participer à notre émission, pas comme Bob Sinclair vendredi. En effet, le célèbre DJ avait dit OK pour venir enregistrer une émission à Europe 1, mais visiblement, il n'avait pas compris que c'était moi qui l'a présenté.
C'est enregistré ?
Oui, c'est enregistré.
Ouais, c'est enregistré,
diffusé cet
après-midi. 16h-18h.
Et Philippe est là ou ?
Philippe.
Ah non, c'est pas du tout pour Vandel en fait.
Non.
Ah,
bon,
bon.
Ah, des moments de solitude, on en a eu deux, trois, Eva, mais
ah,
celui-là, il était vraiment
gêné.
Premium, quoi. Alors voilà, donc aujourd'hui, j'ai bien vérifié avant, je lui ai expliqué que Philippe Vandel, hélas, ne pourrait pas être là. Il a encaissé le coup, il a séché ses larmes. Ah. Bonjour, Riyad Satou.
Bonjour.
Les cahiers d'Esther, tome 5, Histoire de mes 14 ans, sort jeudi aux éditions Alary. Alors, difficile de parler d'un album décidé à la radio pour dire à quel point on l'a aimé et à quoi il ressemble. Pour vous dire, je l'ai juste déposé 5 minutes sur la table de mon salon
vous
vendredi. Et il est parti tout de suite, c'est ma meuf qui l'a pris.
Oui.
J'ai été obligé de le recommander pour l'avoir et pouvoir travailler dessus. C'est vraiment réussi comme d'habitude. Et là, Esther a 14 ans. Quand elle avait commencé le premier, elle avait 10 ans.
Elle avait 10 ans, oui.
Donc là, c'est quand même un grand changement. C'est plus du tout les mêmes thématiques.
Ah ouais,
c'est...
L'adolescence,
elle change.
Fait...
Est-ce que c'est plus dur pour vous de la capter, d'être plus proche d'elle? Elle doit avoir des secrets pour vous maintenant à 14 ans.
Bah, c'est vrai que Les Cahiers d'Esther, c'est donc une bande dessinée qui est écrite d'après les vraies histoires d'une vraie jeune fille. Et quand elle avait 9 ans, en fait, c'est à cet âge-là que je l'ai rencontrée, c'était vraiment une petite radio. C'est-à-dire qu'elle parlait tout le temps, elle ne s'arrêtait pas. Elle disait, les garçons, c'est tous des connards. Et donc elle balançait des... Et c'est vrai que je me suis dit que l'idée de faire une bande dessinée sur sa vie et de la suivre jusqu'à ses 18 ans me semblait évident. Et c'est vrai que là, maintenant, on arrive à un âge où elle est quand même attaquée par ses hormones et elle est un peu plus molle qu'avant. Quand je lui dis alors, et t'as fait quoi cette semaine?
Ouais.
Bah, je sais pas. Enfin, ça saoule. Enfin, il m'a dit. Voilà, mais en même temps, elle met en scène maintenant le fait qu'elle est vraiment trop cool par rapport aux adultes. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, elle est allée à une fête et je lui ai dit « Alors, qu'est-ce qu'il y avait quoi comme musique ?» Par exemple, vous écoutiez quoi Elle me dit « Ben, tu vas pas connaître. » Je dis « Ben, quand même, je fais cette BD depuis 10 ans, je connais un peu les chanteurs. » Ben, bah, Booba, NS, oui, bah, c'est bon, je connais. « Ah bon, tu connais ?» Alors, venez pas de... Voilà, mais c'est plus dans ce rapport-là. Mais elle est quand même toujours... amusée de me raconter tous ces trucs. Non, il n'y a pas de lassitude de sa part.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc un des auteurs de BD préférés des Français qui nous accompagne cet après-midi, Riyad Satouf. Jeudi sort le tome 5 des Cahiers d'Esther, Histoire de mes 14 ans. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ce qui se passe dans la tête d'une fille de 14 ans quand on est un homme de 40?
Bah justement, je suis très curieux de ça. J'ai toujours bien aimé faire des bandes dessinées qui s'inspirent du réel. Et j'ai toujours adoré la période de l'enfance, de l'adolescence, parce que c'est une période dont j'ai gardé beaucoup de souvenirs et que j'ai jamais vraiment oublié ni quitté. Mais finalement, l'âge avançant, bien sûr, on s'en éloigne. Et l'idée de voir comment les jeunes peuvent... comprendre la société, envisager leur futur ou voilà, évidemment plus on devient vieux, plus on devient peut-être négatif, ou on se dit que le monde va s'effondrer, que tout est foutu et c'est vrai que quand on parle avec des jeunes, on se rend compte qu'ils ont une vision complètement différente, donc c'est aussi rafraîchissant et oxygénant, si je peux me permettre ce terme.
Alors Esther existe, elle s'appelle pas Esther, mais ça c'est basé sur des conversations que vous avez avec une vraie jeune fille qui a vraiment 14 ans. Avançant en âge, est-ce qu'elle a un regard différent sur la bande dessinée? C'est-à-dire qu'au début, j'imagine, c'est juste moi qui l'imagine, mais ça devait l'amuser, elle devait le lire, elle était contente. Maintenant, elle doit se dire « Attends, ça, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. » Ou elle doit avoir envie de se mettre en scène elle-même.
Ouais.
Non, elle a un regard critique
dessus. Non, ça s'est pas vraiment, ça s'est pas passé comme ça. Disons qu'au début, elle s'en fichait vraiment totalement. C'était ce qui m'avait bien plu, parce qu'elle ne lisait pas de monde dessiné. Elle était un peu comme un pingouin. Et quand vous la filmez, le pingouin,
écoute,
il vient, il tape sur la caméra, puis il s'en va. Il ne sait pas qu'il est filmé. C'était hyper agréable, parce qu'elle me racontait des trucs sans savoir ce que ça allait faire. Et puis finalement, le temps a passé. Et la bande dessinée a eu de plus en plus de succès. Et un jour, c'est arrivé même plusieurs fois que des gens lui offrent les cahiers d'Esther sans savoir
sans
qu'elle
savoir
était,
était
la vraie Esther. Ou un jour, je me rappelle, ça l'avait marqué, elle s'est retrouvée dans une soirée d'adultes. Il y avait une femme qui lui avait dit, qui lui avait parlé, elle lui avait dit « Mais toi, tu connais cette BD qui s'appelle les cahiers d'Esther ? Ça te parle, toi, cette fille obsédée par son téléphone ? T'es comme ça ?» Alors elle lui avait dit « Bah, je sais pas, vite fait, ouais. » Et ouais, donc, en effet, ça reste dans un coin de sa tête et elle se dit « Ouais, quand même, c'est en train de devenir quelque chose. » Mais bon, elle n'invente rien, quoi. Elle regrette juste des fois, peut-être, que je ne mette pas le nom des vraies personnes qu'elle déteste. Elle me l'a fait plusieurs fois remarquer.
Vous écoutez L'Équipe est sauvage, 2 heures pour étoffer votre culture G sans faire l'impasse sur la bonne humeur, en compagnie d'un invité qu'avec Eva, on cherche à percer à jour, sauf que parfois, au détour d'une malheureuse confidence durant la coupure pub, c'est l'invité qui nous perce à jour quand on revient à l'antenne, comme ce coquineux de Bob Sinclair l'autre jour.
Je suis impatient quand même aussi de retourner live.
Et nous aussi.
Mais nous avons même pris date pour
oui.
Dans certains endroits
Allez-y.
Que nous fréquentons l'été avec Eva.
C'est au Cap d'Agde ou...
Eh mince.
Oh, il aurait certainement confondu avec Vandel. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes stars de la BD française qui nous accompagne, Riad Satouf. Oui, montrez-le à la caméra, Eva,
oui,
ce magnifique album Les Cahiers d'Esther, le tome 5. Esther a maintenant 14 ans. J'ai lu, on le rappelle à chaque fois pour les gens qui ne connaîtraient pas l'histoire d'Esther, elle ne s'appelle pas Esther, mais c'est une vraie petite fille que vous fréquentez et qui vous inspire ce personnage et qui vous raconte sa vie au quotidien. Et vous ne lui donnez jamais de conseils. C'est-à-dire que parfois, elle doit vous raconter des trucs, vous vous dites « Ah non, mais c'est pas possible, c'est pas passé ça, t'as pas fait ça. » Vous ne l'orientez jamais.
Non, je ne l'oriente pas. J'essaie de prendre son point de vue, pour le coup. Par exemple, dans les premiers albums, dans sa classe, ils harcelaient un petit garçon. C'est-à-dire qu'ils étaient méchants avec lui parce qu'il y a... Alors, c'est pas mon rôle de lui dire ne fais pas ça. J'ai montré cette histoire, etc., pour montrer qu'il y a du harcèlement dans les écoles. Voilà, mais je suis son... C'est vrai, quand je parlais du pingouin tout à l'heure, on a tous vu des documentaires où on voit un bébé girafon se faire manger par un guépard. On a envie que le caméraman aille et le...
C'est vrai, on se dit qu'est-ce qu'il fout.
Qu'est-ce qu'il fout, mais ouais. c'est pas ma place de faire ça.
Et alors le papa pingouin et la maman pingouin, ils disent quoi de la BD, alors... de la relation que vous avez avec
leur
fille ?
C'est vrai, justement, c'est qu'elle ne me raconte jamais rien de sensationnel qu'elle ne dise à personne. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas, en fait.
Oui.
Ce qui m'intéresse, au contraire, c'est le quotidien et surtout la vie normale. C'est comment son jugement moral se construit, sa façon de voir la société, la politique. Alors, parfois, je lui pose des questions précises, notamment sur la politique, parce qu'elle ne va pas m'en parler directement. Par exemple, je lui ai demandé, dans cet album, à un moment... fallait en parler, je lui dis, est-ce que tu connais Greta Thunberg,
oui.
C'est-à-dire, elle pensait que c'était une candidate
de
The Voice.
Oui.
Et après, elle pensait que c'était quelqu'un qui luttait contre la Terre. Enfin, elle mélange les choses. Mais aussi, c'est bien de voir, enfin, en tout cas, moi, je sais que ça m'intéresse de voir comment les jeunes comme ça prennent la politique ou les phénomènes de société et croient les comprendre en s'en faisant une idée, comme ça. Et on se rend compte que beaucoup d'adultes sont comme ça aussi, notamment par rapport à la politique. Moi, je me rappelle quand il y a eu des élections présidentielles, elle jugeait les candidats sur le physique. Et elle disait, celui-là, il va être président, c'est bien, c'est le plus beau. Et en fait, je me rappelle, ma mamie était exactement pareil. Elle disait, il est charmant.
Il présente bien.
Mais voilà. Et donc, en fait, on se rend compte qu'à 13-14 ans, notre vision politique est faite et qu'on ne va souvent pas chercher plus loin. Et c'est rigolo d'observer ça en train de se faire.
Comment cette jeune fille fait pour ne pas prendre la grosse tête quelque part? Elle sait qu'elle a bien compris maintenant le succès des cahiers d'Esther. Et comment elle fait pour maintenir l'anonymat? Parce qu'elle doit bien le dire à quelques copines, sa meilleure amie doit être au courant. Enfin, j'imagine qu'autour d'elle, on sait qu'elle a inspiré cette...
Non, mais disons que, en fait, je change pas mal de choses pour qu'elle ne puisse pas frimer. Et d'ailleurs, même, je lui ai dit que de temps en temps, je pouvais m'inspirer d'une autre jeune fille, par exemple. Ou d'un... Donc, en fait, elle n'a vraiment pas pris la grosse tête. Même, comme bien même, elle dirait à ses copines, c'est moi. Mmh. Ça lui est arrivé, d'ailleurs, une fois ou deux, de dire, ah, mais c'est... Et c'est comme il fait, non, mais t'es pas comme ça. Et donc, il y a un truc un peu frustrant. Quoi. Voilà.
Parce que même physiquement, c'est pas elle, j'imagine.
Non, elle est un peu différente, quoi, quand même. Voilà. Je veux pas qu'elle grandisse avec je veux pas en faire une psychopathe. Quoi.
C'est bien pour les parents pingouins, vous remercie. Le roi des platines, comme on disait à mon époque, Bob Sinclair est notre invité cet après-midi pour la sortie d'un nouveau titre pile avant l'été. Habile.
C'est-à-dire que oui, c'est vrai que les clubs à ciel ouvert un 15 novembre, c'est plus compliqué, quoi.
Oui, évidemment.
Bah oui.
Mais là, ça tombe bien, ça nous donne vraiment envie de
retourner
à la plage.
Carrément, vraiment.
Alors, cette chanson va être le tube de l'été, I'm on my way. J'ai une petite question. Vous avez été un des pionniers de la French Touch, mais pionnier parmi les DJ, c'était une époque où vous êtes lancé. C'était pas un métier, DJ.
Si, c'était un métier,
non,
bien
sûr. Non, c'était pas un métier. On pouvait pas imaginer une carrière comme celle que vous avez avec David Guetta, par exemple. Enfin, c'est quand même, ça n'a rien à voir avec ce qu'était le métier de DJ.
Non. C'est vrai qu'il y avait pas d'association d'image, une image d'artiste, en tout cas, sur cette image de DJ. Et c'est les Français, ils sont pour beaucoup. Pendant la French Touch, on a tous créé des concepts et surtout une identification sur la musique.
Et alors, cette starisation de certains DJ est très positive. Elle donne, j'imagine, envie à plein de jeunes de se lancer. Est-ce que c'est pas aussi un miroir aux alouettes? C'est-à-dire qu'il faut peut-être dire aux jeunes qu'il y a quand même peu d'élus qui vont réussir
Il y a beaucoup de jeunes qui jouent de la guitare et qui rêvent d'être chanteurs et qui ne le sont pas forcément. Et c'est bien, ça crée, je trouve ça donne une très belle crédibilité à ce métier. Et voilà, je trouve ça un métier fabuleux.
Notre prochaine concurrente est avec nous en duplex de la merveilleuse cité phocéenne, formidablement résumée par le très joli mot de Marcel Pagnol. Non, c'est pas le bon son. Nathalie Chevance, vous êtes notre correspondante à Marseille.
Oh, c'est facile.
Et cet après-midi, vous savez que mon cœur bat pour l'OM, alors ça va, je peux me permettre. Cet après-midi,
à vous aussi. Mes enfants sont nés à Bouchard, à Marseille, voyons.
Ah, ça, c'est un point commun qui me plaît. Alors, Nathalie Chevance, ne nous emballons pas. Vous nous parlez aujourd'hui, depuis Marseille, d'une technologie étonnante liée un four à cuisson solaire, je ne comprends pas.
Alors en fait, le réchaud solaire, ça existe déjà. Vous en avez peut-être déjà vu avec sa grosse parabole comme un parapluie métallique et au milieu un socle pour déposer sa cocotte. Bon, c'est un peu roots, ça marche pas mal, mais l'installation ne supporte pas le vent. Pas bon, hein, donc quand on vit à Marseille.
Ah bah oui, Mistral.
Voilà. Du coup, c'est un ingénieur de Polytech qui a mis au point ce nouveau cuiseur solaire complètement hermétique. C'est ça la trouvaille. Plus de problème de vent. Et en plus, on peut se régaler sans se brûler. C'est beaucoup moins dangereux qu'un barbecue. Et la démarche, elle est vraiment écolo. On diminue l'émission de CO2 et en même temps, on baisse sa facture de quelques centimes d'euros à chaque repas. Mais c'est surtout le plaisir de prendre le temps de préparer et de manger un bon repas grâce au soleil. C'est quand même très poétique. Démonstration avec Richard Loyen, président de l'association des festins photoniques à l'origine du projet.
Donc c'est un tube sous vide sur lequel on va refléter de la lumière. Le tube sous vide va capter cette lumière, retenir tous les infrarouges et chauffer l'intérieur du tube. Et en fait, on fait la cuisine à l'intérieur d'un tube. Alors, dans un petit tube, on va mettre un petit rack. Dans un gros tube, on va pouvoir mettre un gros rack ou des bacs de cuisson. Aujourd'hui, mon plus gros four, il a quasiment 4 litres de cuisson utile. Le miroir, en fait, va entourer le tube, va refléter la lumière. Là, dans le four qui est bricolé en prototype, on est déjà à plus de 240 degrés. Ça marche sans feu ni flamme. On peut aller dans un parc au bord de la rivière. On peut faire son déjeuner chaud tranquillement.
Et ça monte à quelle température? Est-ce que je peux faire une pizza avec votre four solaire?
Absolument, c'est bluffant. Il faut juste regarder la météo avant de vous mettre dans votre four. Il faut vraiment, vraiment du soleil. C'est mieux. C'est surtout plus rapide parce que le cuiseur met quand même un certain temps avant de chauffer. Mais on peut cuire absolument tout. Un poulet, un gâteau, une ratatouille, du poisson. Et j'ai testé sur une jolie terrasse marseillaise ensoleillée avec notre inventeur qui m'a mijoté un repas solaire absolument délicieux.
On va faire une petite mise en bouche avec des haricots qui ont été déglacés au vinaigre de figue. Ensuite, on continuera avec une charlotte d'encornée. Et enfin, il y aura une petite mixture de haricots coco lingot avec de la charcuterie corse cuite à la tomate.
Alors là, qu'est-ce qu'on fait, Richard?
Alors là, on va voir si le risotto est tout à fait cuit. Ben, on le regarde. Il va falloir le réarroser un peu, mais il est cuit. Prêt à déguster, il va nous servir de base pour la charlotte avec l'aubergine et les encornées. Sur 55 jours de confinement, j'ai fait 48 menus solaires. À la fois le midi et souvent, je faisais réchauffer le soir. Ça fait presque 90% de repas solaires durant toute la durée du confinement. L'enjeu, c'est de pouvoir avoir un cuiseur solaire familial pour l'année prochaine à moins de 300 euros.
Et ce four solaire, il existe déjà aux États-Unis et en Chine. Il sera livré en France en kit, fabriqué en France, en attendant l'ouverture à Marseille de la première guinguette solaire avec petits plats mijotés exclusivement grâce au soleil.
Alors, pour résumer votre sujet, Nathalie, en fait, vous avez pécho le type Richard qui a inventé les fours solaires. Vous avez fait un dîner tête-à-tête sur sa terrasse. Il vous a invité chez lui. On ne sait pas tout ce que vous avez fait après, mais vous avez dit
qu'il y avait un risotto, en tout cas.
En tout cas, bien joué, Nathalie. Associer l'utile à l'agréable. C'est tout vous. Merci, Nathalie. Aujourd'hui, c'est Ben, l'oncle Soul, qui arbitre la grande compète des journalistes d'Europe 1. Votre nouvel album, Ben, sort la semaine prochaine. On continue d'en parler. Mais le moment est venu de vous présenter un des journalistes les plus polyvalents de notre rédaction. Puisqu'en effet, il est aussi balèze en économie qu'en généalogie des têtes couronnées. Les royaumes et les principautés n'ont aucun secret pour lui. Il en connaît tous les charmes. Ce qui d'ailleurs, au milieu d'une chronique touristique où je m'endors, peut me réveiller.
Le franco-espagnol. Alors... Le boulot et la Jonquera, c'est pareil. Hein.
Oui, c'est pareil.
Mais là, quand tu descends vers Barcelone...
La Jonquera, c'est horrible.
T'as les putes en plus. Plus à la Jonquera.
là, vous captez mon attention. Emmanuel Dutheil, cet après-midi,
on
vous nous donnez...
Pute en soi.
Vous nous donnez des nouvelles du prince Andrew, rien à voir avec les putes. Enfin, j'espère.
Si, malheureusement, si, mon Dieu. C'est bien ça tout le problème.
Mais c'est un blasphème. C'est pas la grande forme hein, pour le prince
non.
Andrew.
Non, alors je vous le replace déjà un petit peu, parce que vous avez le droit de ne pas savoir qui c'est. Andrew, c'est le troisième enfant de la reine d'Angleterre. On l'a souvent présenté comme le fils adoré, le fils chéri. Bon, en ce moment, c'est vraiment le vilain petit canard. Il est empêtré donc dans ce qu'on appelle l'affaire Epstein. Vous savez, hein, c'est ce financier américain qui s'est suicidé en prison en août dernier et qui a été poursuivi pour de multiples agressions sexuelles sur de jeunes filles. C'est un grand ami du prince Andrew. Le prince s'est rendu régulièrement, notamment aux îles Vierges, sur l'île privée que détenait là-bas Jeffrey
bien
Epstein.
Mal nommé,
voilà, bien mal nommé, semble-t-il. Une des filles, justement, accuse le prince Andrew de l'avoir forcé à avoir des relations sexuelles alors qu'elle était mineure. Alors, ce que le prince dément hein, depuis le début, malgré des témoignages et une photo quand même un petit peu troublante. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, mais il y a en ce moment, sur la plateforme de téléchargement Netflix, une série qui retrace hein, le parcours de Jeffrey Epstein. Alors, bon, je l'ai trouvé un poil long, mais le passage sur Andrew, justement, est quand même assez impressionnant.
Et donc, il y a eu un nouveau rebondissement ?
Oui, là, il est accusé de ne pas coopérer avec la justice américaine, selon le tabloïd The Sun, sorti comme son nom l'indique ce dimanche. Merci de tous suivre. Le ministère américain...
Vous n'avez pas dit le beau pute, hein. Moi, je décroche.
Bah, vous savez, dans The Sun, vous pouvez en trouver pas mal.
Oui, c'est là, vrai.
Donc, le journal sorti ce week-end, le ministère américain de la justice a saisi le ministère britannique de l'Intérieur pour contraindre le prince a témoigné, vous imaginez, ça fait quand même un peu scandale. Toujours selon le Sun, le procureur souhaiterait à ce stade interroger le fils de la reine Elisabeth II en tant que témoin et non comme suspect. Alors, ses avocats ont démenti tout cela, puisque selon eux, le prince a proposé au moins trois fois, alors j'aime bien le « au moins », ils ont qu'à dire le nombre exact à ce moment-là, de témoigner. Une telle demande, si elle était appliquée, serait décevante dans la mesure où le duc d'York, qui est son titre de noblesse, n'est pas la cible de l'enquête de la justice américaine et a répété récemment son intention de produire un témoignage, indiquent ses avocats.
Dans tous les cas, c'est très gênant pour la couronne britannique.
Oui, à cause de cette affaire, il a dû suspendre toutes ses activités de représentation. Il a été lâché un petit à petit par les entreprises, les associations avec lesquelles il travaillait. Vous en souvenez peut-être notamment après une interview dont on avait parlé justement, il avait essayé de se défendre.
C'était une calamité.
Cataclysmique. C'est-à-dire qu'ils ont les plus grands conseillers de com de crise du monde et réussir à faire ça, ça fait peur sur la com de crise.
Ne vous énervez pas, Emmanuel.
Non, mais bon. Ils murmurent par ailleurs que cette suspension pourrait durer, en tout cas c'est ce que disent les murs de Buckingham Palace que j'écoute tous les jours. À 60 ans, il pourrait donc ne jamais reprendre ses activités tellement la situation est embarrassante.
Et comme disait Chirac, les emmerdes volent toujours en escadrille. Le mariage de l'une de ses filles vient d'être repoussé.
Oui, je me disais que ça vous plairait comme relance.
Vous me connaissez si bien.
Effectivement, il a deux enfants. Je ne vais pas vous demander de donner les prénoms parce que non. Je pense que vous n'en avez aucune idée. C'est Eugénie et Béatrice. Et là, je vais vous parler de Béatrice, sa fille aînée, qui aurait dû épouser Eduardo Mappelli Mozzi le 29 mai dernier à Londres. Ça devait se passer dans les jardins de Buckingham. La reine avait accepté de prêter ses jardins. Mais à cause des déboires de son père, le mariage aurait été un petit peu moins grandiose que ceux de ses cousins, Harry, William, mais même de sa sœur Eugénie, hein, qui s'est mariée il y a quelques années. Elle aussi avait eu le droit à la télévision et à tout. Mais là, bon, c'est pas à cause de son père hein, que le mariage a été annulé. Quand même, on peut pas tout lui mettre sur l'eau, c'est à cause du Covid. Comme quoi, pour le moment, rien ne va et aucune date pour le moment n'est évoquée pour le mariage.
Merci Emmanuel Dutheil. Et même si c'est un peu choquant, je préfère vous prévenir, je crois qu'il serait bon pour se rendre compte de l'horrible bonhomme qu'était Jeffrey Epstein, que vous vous rappeliez ce qu'il disait à ses partenaires juste avant le moment fatidique.
C'est long de tout rentrer, c'est fastidieux, mais une fois que c'est fait, c'est un jeu d'enfant.
Quel horrible personnage.
Non.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez L'Équipée Sauvage, 2 heures d'infos, de rire et aujourd'hui plus que jamais, d'évasion. Oui, mais attention, pandémie mondiale oblige, d'évasion franco-française. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu, j'ai l'impression que vous partez en séjour d'évasion avec moi en fait.
Mais oui,
ça fait bizarre
en classe
comme ça.
Verte.
En classe verte.
On serait
si
bien en classe verte tous les deux.
Oui, ce serait pas mal.
Bienvenue.
Bonjour à tous. Pardon.
Bienvenue dans notre spécial cet été, voyageons chez nous. 2 heures durant lesquelles nous allons vous prodiguer moult conseils de séjour, d'activités, de randonnée partout en France. Alors, sachant qu'avec Eva, on est vraiment balèze niveau géographie française, on aurait pu faire cette émission juste tous les deux. Juste tous les deux en studio, fort de notre connaissance encyclopédique des départements, comme nous l'avons prouvé lors du quiz géo d'Axel de Tarlé.
Un petit quiz amusant. Alors, le Gers, c'est quelle région le Gers ?
Auvergne,
Non. L'Occitanie. La Corrèze, c'est quelle région ?
Centre. C'est centre.
C'est le centre, oui.
Non, c'est une catastrophe. C'est la Nouvelle-Aquitaine.
Oui, bon, bah ça va, Axel. Hein.
Je vois que je tape un taux avec mon quiz. J'aurais dû faire plus simple.
Oui, il avait tapé. un peu haut. Vous l'entendez, la France et ses régions n'ont pas de secret pour nous. Mais bon, pour être vraiment sûr et blinder le truc, on a quand même préféré inviter le cofondateur du Guide du Routard. Bonjour Philippe Blaguen.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, avec ce sens du timing, ce flair qui a fait la force du Guide du Routard, vous avez publié en octobre dernier, sans le savoir, le guide ultime de notre été post-Covid, un magnifique ouvrage intitulé Voyage France, 1001 idées de voyage et d'expérience dans notre pays. Alors, clairement, on aurait tort de se déprimer à l'idée de rester en France cet été. On dit qu'on a le plus beau pays du monde. C'est pas juste du chauvinisme, c'est un peu vrai aussi.
C'est un peu vrai et c'est un livre qui pour moi est très important. J'avais un papa instituteur et comme tous les instituteurs, il y avait des marottes, des trucs. Par exemple, il trouvait scandaleux que dans l'histoire de France, les femmes avaient une toute petite part. Et en hommage pour mon père, eh bien, j'ai fait un chapitre sur les femmes célèbres assez méconnues. En France, mais qui ont compté d'une façon absolument fabuleuse. Et j'ai, avec bonheur, fait un livre qui correspondait à quelque chose de très important pour moi. J'ai publié dans ma vie peut-être 2500 guides de routard. Je vais vous dire, sincèrement, et là, je ne déconne pas,
celui-là, vous en
c'est le plus important.
C'est le plus important, si vous en avez qu'un, c'est celui-ci. On va en parler durant ces deux heures. Mais d'abord, qui est Philippe Blaguen? Eh bien, ami jeune, fan de Mark Zuckerberg et autres Elon Musk, que vous prenez pour des businessmen de génie, je vous présente celui qui, en termes de réussite professionnelle, a fait beaucoup mieux que n'importe quel self-made man de la Silicon Valley, puisqu'en effet, il est le seul type au monde à avoir réussi à créer tout un business qui consiste à le payer lui pour voyager partout dans le monde. Le guide du routard qu'il a créé, tout simplement le livre le plus vendu en France de l'histoire, plus de 50 millions d'exemplaires. Même la Bible n'a pas fait mieux, Philippe.
Si.
La Bible est devant, mais ouais. De peu.
Mais par contre, le Christ ne touche plus de droit d'auteur.
Alors que vous, oui, vous êtes mon champion de toute catégorie. Est-ce que le succès du routard continue? Est-ce que vous êtes sur la même tendance depuis des années? Ou est-ce que Internet, TripAdvisor, tout ça, ça vous fait du mal? Ou pas du tout? C'est juste autre chose.
Pas du tout. Alors d'abord parce qu'on en profite. Nous, on a créé il y a 20 ans maintenant avec un monsieur que vous connaissez un petit peu, Arnaud Lagardère, le routard.com, qui est donc le site qui est gratuit. C'est ça tout le secret de cette réussite Internet qui donne envie de voyager. Mais après, pour avoir recours à la compagnie aérienne, le tour opérateur, eh bien, il faut consulter routard.com. Et c'est vrai qu'on a les meilleurs rapports qualité-prix.
Philippe, on va parler de ce livre, on va le feuilleter tout au long de ces deux heures. Mais une question toute simple, vous partez où par exemple cet été?
Alors,
vous savez déjà?
Oui, absolument, en France, et j'en suis ravi. Je vais en Charente-Maritime, autour de l'île de Ré. Et ensuite, je rejoins des amis en Ardèche et Drôme.
Ah, l'Ardèche. Voilà, vous nous parlerez un peu de l'Ardèche, parce que c'est une région qui est magnifique.
Vous cherchez un plan?
Mais je ne cherche pas un plan, comme vous dites, de cette manière un peu vulgaire, qui caractérise pas forcément un plan, et, ni tout ce qui va avec, mais juste la beauté des lieux. Vous savez, je pensais aux Gorges du Verdon. Tiens, on parlera des Gorges du Verdon tout à l'heure. Son ouvrage,
qui ne sont pas dans l'Ardèche.
Qui sont pas du tout en Ardèche.
Ça ne m'énerve pas, mais on rappelle.
Excusez-moi, parce que même moi, ça je le sais, c'est un peu vers chez moi, si vous voulez. Mais bon.
Philippe Blaguen, heureusement, est avec nous. Vous écoutez l'Équipée Sauvage spéciale vacances d'été. Alors c'est sûr, l'insouciance qui primait jadis dans les campings et autres clubs de vacances n'est plus de mise, surtout pour les membres du corps médical.
Si t'as le moindre pépin, je suis médecin. Enfin, essaye de ne pas me déranger pour des bricoles quand même. Je suis en vacances. Merci.
Cet été, nous serons nombreux à rester en France. Ça tombe bien, c'est un des plus beaux pays du monde. Encore faut-il avoir le bon guide. Philippe Blaguen, vous avez publié il y a quelques mois un livre magnifique. Vous avez dit que c'était un des livres les plus importants du routard. Voyage France, un livre illustré. Non, c'est clairement
ça fait partie des beaux livres.
Hein. Beaux
c'est-à-dire
livres,
que ça va être compliqué de voyager avec quand même.
Ça ne se met pas dans le sac à dos. Hein. Il faut le consulter. Avant, il faut choisir une région. Il y a des régions dont on soupçonne mal les richesses. Est-ce qu'il y a des régions mal aimées en France qui regorgent de trésors?
Oui, il y a des... Il y a la France que l'on connaît, c'est surtout la France des côtes, hein, puisque la plupart des gens assimilent la mer, les plages à juste titre, surtout quand on a des enfants aux vacances. Mais il y a aussi cette France de l'intérieur, cette France que nous appelons la France des terroirs. Et ce qui est assez intéressant en France, c'est que vous avez un tas d'endroits qui sont peu fréquenté parce que peu connu, et donc bon marché. Vous évoquiez l'Ardèche tout à l'heure. C'est un endroit où vous trouvez des chambres d'hôtes à 50, 60 euros parce que, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, alors que vous avez tout sur place. Des villageois qui ont gardé leurs traditions, c'est leurs recettes gastronomiques, que ce soit la Ligot dans le Cantal les charcuteries en Ariège. Et ça fait partie aussi de notre patrimoine, de notre
culture. La gastronomie, c'est toujours très important dans le Rotar. Hein.
Bien entendu, parce que c'est un des intérêts majeurs de la France. C'est-à-dire, il y a de la culture avec les vieilles pierres. Il y a surtout les rencontres avec les gens, et c'est là-dessus que le guide du Routard a fait un peu sa réputation. Mais il y a aussi la gastronomie. Et la gastronomie, ce n'est pas forcément des étoilés Michelin. C'est aussi cette gastronomie qui se transmet de père en fils ou de mère en fille et qui traverse les siècles d'une façon magistrale.
Eva, cet été, est-ce que vous prendrez le Mastrou avec moi ?
Alors dites-moi où c'est, parce que je ne connais pas.
Justement, c'est ces fameuses gorges du Verdon dans l'Ardèche. C'est le train de l'Ardèche. Datant de la fin du 19e siècle, le chemin de fer du Vivarais est emprunté par un train touristique surnommé le Mastrou, qui vous mène de Tournon-sur-Rhône, Saint-Jean-de-Muzol à Lamastre avec locomotive et voiture de collection,
mais moi j'adore les
dont
les
locaux à vapeur.
Ouais. Mais j'adore ça les trains touristiques.
Je ne savais pas que ça existait.
Vous avez énormément de petits trains qui sont devenus touristiques. Par exemple, le train d'Épinay.
Oui,
le train d'Épinay part du centre de Nice.
Vous savez d'où il part exactement? Parce que moi, je vais vous le dire, il part de la rue Montéga, c'est là où habite ma mamie, je la salue, et le train d'Épinay passe devant sa maison.
Et enfin, qui parcourt la montagne, c'est absolument sublime.
Et il s'arrête en cours de route, et vous savez qu'en été, on met un train à vapeur, une locomotive à vapeur, et c'est vraiment le Far West.
C'est magique pour les enfants aussi.
Et vous montez dans les Préalpes, c'est-à-dire que vous montez haut, et sur place, vous pouvez faire escale sur des restaurants exceptionnels. Et c'est cette France un peu oubliée, qui n'est pas gérée, je vous le dis, pour votre mamie, par la SNCF, mais qui est gérée par le Conseil général de la région des Alpes-Maritimes.
Voyage France sera, n'en pas douter, notre Bible estivale, et je n'utilise le mot Bible à dessein, puisque la Bible est le seul livre qui est plus vendu que le Routard. Et encore, j'ai eu Jésus au téléphone, il est inquiet, pas pour longtemps. C'est une comédienne dans le vent qui nous accompagne, Elsa Zilberstein. Vous êtes partout. Le nouveau Lelouch, samedi sur Canal+, adorable en juillet avec Lucien Jean-Baptiste, puis en novembre dans Tout nous sourit avec Stéphane de Groot, qui a cartonné au dernier festival de l'Alpe d'Huez. On en a un petit peu parlé. Et comme vous aviez encore un peu de temps, que l'ennui vous guettait, j'ai lu que vous aviez également un projet avec Netflix. Le pitch sur Allociné, en tout cas, est une comédie avec des robots réalisée par Jean-Pierre Jeunet.
C'est le prochain film que je vais tourner, c'est le film de Jean-Pierre Jeunet.
Pour Netflix, donc.
En fait, c'est le premier film produit par Netflix pour la France. Ils font une série européenne, il y a un film italien, je crois, un film espagnol et un film français. Et ça s'appelle Big Bug, et c'est un film sur l'intelligence artificielle. C'est un film d'anticipation, donc j'avais jamais fait ça, qui se passe en 2065. Et c'est la cohabitation des robots humanisés et des humains.
Alors Elsa Zilberstein, ceux qui vous suivent sur Instagram le savent, durant le confinement, vous en avez profité pour aller pas mal à la plage.
Oh, j'hésite à aller me rebaigner. Elle est bonne ou pas? Elle n'est pas trop fraîche? Non, les enfants, vous sortez de l'eau maintenant. Il y a des vagues, c'est dangereux. Le premier qui se plaint, il rentre à Paris.
Après l'avoir beaucoup rêvé, on va bientôt pouvoir le faire. Allez se dorer la pilule sur une plage de sable fin. Encore faut-il savoir choisir le bon spot. Pour ça, il y a un label, les pavillons bleus. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Anne Le Gall, vous avez décidé de nous éclairer.
Voilà. Alors la bonne nouvelle déjà, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de lauréats que cette année. Donc 21 nouvelles plages et 5 nouveaux ports de plaisance ont reçu ce pavillon bleu. Donc pour les vacanciers qui resteront en France à cause du coronavirus, ils ont le choix. Au total, c'est 401 plages en France qui ont ce label et 106 ports de plaisance. Donc c'est un label qui récompense bien sûr la qualité de l'eau, qualité bactériologique qui est au top niveau. C'est une classification excellente. Mais ça récompense aussi toutes les plages et toutes les communes qui font des efforts sur la propreté des lieux, la gestion des déchets. Donc, il y a ce qu'il faut. Il y a les poubelles. On est incité à faire du recyclage. Il y a la sensibilisation du public aussi au respect de l'environnement. Il y a la préservation des sites naturels. Il y a aussi toute la notion de sécurité pour l'accueil du public. Et puis, l'accueil aussi des personnes à mobilité réduite. Donc, tout ça, ça rentre dans le label. Au total, il y a 40 critères pour obtenir ce label pavillon bleu. La région championne des pavillons bleus en France, eh bien, c'est... Tadam,
l'Ardèche.
L'Occitanie. Eh oui, 109 plages, 19 ports récompensés, suivi par la région PACA, 96 plages récompensées. Ensuite, il y a les Pays de la Loire, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Et petite surprise, Auvergne-Rhône-Alpes comporte plus de plages au pavillon bleu que la Normandie. Mathieu, ça vous bouche un coin, ça vous embouche un coin.
Ça me bouche un coin, comme vous dites. Comment ça, c'est les lacs en Auvergne, il y a beaucoup de lacs qui sont très beaux.
Mais voilà, en fait, comme il y a aussi des plages qui sont à l'intérieur des terres, qui sont soit des étendues d'eau, des bords de rivières ou des lacs, eh bien, on trouve par exemple une douzaine de lacs en Savoie qui ont été récompensés. Il y a des plages sur les bords de l'Ardèche, de la Dordogne. Vous avez les lacs d'Eda et de Chambon en Auvergne. Vous avez les pavillons bleus aussi en Bourgogne ou en Val-de-Loire. Donc, au total, ce sont un tiers
des plages. On va se faire une plage en Bourgogne.
Non, mais le problème, c'est que c'est froid souvent, les lacs. C'est froid. Et il y a de la vase au fond, ce qui fait que c'est quand même moins agréable. Alors, je veux bien qu'il y ait le pavillon bleu, mais c'est
pas les calanques, c'est sûr.
Non, mais allons nous faire une plage avec Olivier Pouls en Bourgogne.
Cet été, on continue de se voir encore.
Bah, je sais pas.
Oh non, je voulais faire une blague, ça t'avait touché. Ah oh, oui, on va se voir, on va continuer de se voir, on ira où tu veux.
Bon, on vous laisse organiser vos vacances. En tout cas, sachez, chers auditeurs, que si vous hésitiez entre randonnée et plage, en fait, parfois on peut faire les deux.
Et oui, c'est vrai.
À l'intérieur des terres, il y a un tiers des plages qui sont à l'intérieur des terres.
Mais est-ce que ce pavillon bleu, il est fiable? Moi, c'est la question que je me pose, parce que je suis un peu hypochondriaque, donc
c'est
la qualité de l'eau, tout ça, est-ce qu'on peut faire confiance à ce pavillon?
Sur la qualité de l'eau, aucun problème. Donc le label a 35 ans, et en fait, ce sont les agences régionales de santé qui déterminent la qualité de l'eau. Il y a aussi un critère européen, donc ça, c'est très fiable. Ensuite, concernant le label lui-même, alors moi j'ai contacté la porte-parole de la Surfrider Foundation, donc qui est une association qui préserve aussi l'environnement et les lieux de baignade. Alors pour elle, il ne faut pas se tromper, ce label pavillon bleu, c'est vraiment un label touristique, ce n'est pas un label environnemental, même s'ils font beaucoup de communication en ce moment autour de ça. Ça veut dire que ça ne suffit pas en fait pour l'environnement. Par exemple, il n'y a que la pollution bactériologique qui est prise en compte, il n'y a pas la pollution chimique, et surtout la mesure n'est faite que l'été, que durant les 3 mois d'été. Donc, pour des plongeurs, par exemple, qui se baigneraient en automne, en hiver, eh bien, là,
ce n'est
pas surveillé, il n'y a pas de garantie. Et puis aussi, le pavillon bleu est décerné sur demande. Il faut déposer un dossier. Donc, évidemment, c'est sur la base du volontariat, ce n'est pas exhaustif. Et la fondation Surfrider donc, milite pour que, évidemment, il y ait une information fiable pour les vacanciers partout. Et ça sera une question dont on va entendre parler parce que la directive européenne sur la qualité des eaux de baignade va bientôt être révisée. Donc, ce sera dans les discussions.
C'est une question un petit peu, peut-être délicate, peut-être un peu couillue, mais après tout, Albert Londres est vraiment mon maître à penser dans le métier. Elsa Zilberstein, l'été, vous êtes plutôt mer ou montagne?
Ah, voilà.
Ni l'un ni l'autre.
Après avoir rêvé de la mer.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne.
Allez, écoute.
Voilà. Non, plutôt mer, on va dire.
Plutôt la mer. Vous savez déjà ce que vous faites cet été ou...
Vous savez, j'ai du mal à me dire qu'on parle de vacances alors qu'on vient d'être pendant 2 mois. Moi, c'est pas du tout ma...
Là, vous avez envie de bosser, quoi.
Ouais. Ouais.
Vous
avez déjà des tournages qui sont...
Je vais aller dans le sud, moi. Voilà, j'adore le sud, dans le sud de la France. Oui, je tourne en septembre le film de Jean-Pierre Jeunet.
D'accord.
Ah, c'est d'ailleurs en septembre. Merci Anne Le Gall pour ce tour des pavillons bleus. On a hâte de pouvoir retrouver de vraies plages. En attendant, chacun s'organise pour recréer l'ambiance plage chez soi, pas vrai Eva?
Il y a simplement des verres et une bassine.
Bah, quand on a de l'imagination, avec trois fois rien. Bob Sinclair, le DJ star du confinement, a titré la presse, est notre invité arbitre cet après-midi. Chaque jour de 14 à 15h, vous proposiez un grand mix en direct de votre studio. Votre nouveau titre, I'm on my way, vient de sortir. Vous êtes en plein boom. Le seul hic, c'est qu'on ne voit pas quand les boîtes vont rouvrir. On en parlait un peu en antenne, vous êtes plutôt optimiste.
Mais c'est fou, parce qu'il y a encore 15 jours, par exemple, je parle de l'Espagne, parce que quand on parle de discothèque, on parle d'Ibiza. Moi, je pense à Ibiza, et j'ai une résidence là-bas, normalement, tous les lundis au Art, le club du Cirque du Soleil. Et il y a 15 jours, l'Espagne était fermée aux touristes pour tout l'été, ils n'accueillaient personne. Et là, d'un coup, je reçois, moi, depuis 2 jours, l'ouverture des clubs pour l'instant à ciel ouvert, mais... Je suis très confiant parce que j'ai l'impression, avec les informations encore une fois que je reçois tous les jours et que la télé nous donne, c'est que le virus est en train de mourir. Donc les gens vont vouloir danser, c'est certain.
Et nous aussi.
Et voilà. Nous aussi. Oui. Nous avons même pris date pour dans certains endroits que nous fréquentons l'été avec Eva. mais nous n'en dirons pas plus.
Ça n'est pas au Cap d'Agde. On
est grillé. Et la question que pose aujourd'hui notre vétérinaire Farakessri est la suivante. Quid de l'instinct maternel chez les animaux? Y a-t-il des animaux mère-poule, Farakessri?
Oui, absolument. Mais en éthologie, on fait la distinction entre l'instinct maternel et l'amour maternel. Hein. Il n'y a pas 99% des mamans, comme vous disiez tout à l'heure, qui ont forcément envie d'avoir des enfants. Elles sont libres de vouloir ou pas de devenir maman. Mais en éthologie, chez les animaux, vraiment, on fait la différence entre le comportement de maternage et les liens d'attachement. Et chez toutes les espèces animales, une femelle, même pour son premier petit, sait d'emblée prodiguer les soins. Elle sait nourrir, câliner et surtout protéger ses petits. Et si je vous donne un exemple avec justement les poules, il y a eu des expériences qui ont été réalisées. Ils ont placé des poussins sous une cloche de verre insonore. La maman poule voit bien ses petits s'agiter mais ne les entend pas et du coup, elle ne réagit pas. En revanche, quand on reproduit la même expérience pour que la mère puisse entendre ses petits mais sans les voir, eh bien cette fois, la maman poule réagit et fonce vers l'endroit où elle entend les cris. C'est ce type d'expérience qui ont fait penser aux éthologues que même si le comportement de maternage est inné et qu'il est inscrit dans les gènes, il ne se déclenche que s'il y a des petits et qu'ils envoient les bons signaux. Si ce n'est pas les bons signaux, ben ça ne se déclenche pas, il n'y a pas de comportement. Et c'est vraiment la demande de soins par les petits qui va déclencher un comportement de maternage.
Mais alors si je vous suis, c'est le son qui est important. Donc pendant le confinement, quand nos enfants nous ennuyaient, qu'on essayait de télétravailler, il suffisait de les mettre sous une cloche en fait. C'est ça que vous dites, Farah, qu'on les mettait sous une cloche, comme ça on ne les entend pas. Il n'y a pas ce réflexe d'aller s'occuper d'eux. C'est ça qui est important. Ça, petit conseil à nos auditeurs. Est-ce qu'une mère crée automatiquement des liens exclusifs avec son petit et vice-versa ?
Eh bien, en tout cas, chez les animaux, il faut qu'il y ait certaines conditions. Il y a eu des observations dès les années 30, notamment avec le précurseur de l'éthologie, Conrad Lorenz. Il étudiait les oies cendrées et il a remarqué qu'il y avait une période critique au cours des premières heures après la naissance, que l'on appelle l'empreinte parentale. La maman et les petits doivent s'imprégner mutuellement. Et chez les oies, ça se manifeste hein, cette imprégnation d'une façon assez curieuse. Les petits suivent le premier objet mouvant qu'ils aperçoivent, même si c'est une balle qui roule. Et chez les mammifères, de façon plus générale, il y a une période qui est aussi une période d'imprégnation. Elle passe par une voie hormonale. Elle est activée surtout par l'odeur. Et c'est pour ça, justement, qu'on dit souvent de ne pas toucher les chiots, les chatons ou les oisillons, surtout quand ils n'ont que quelques jours, parce que sinon, leur maman ne va pas reconnaître leur odeur.
Ça casse le lien maternelle. Bob Sinclair, on a une image des DJ qui est souvent fausse d'ailleurs, vous en êtes l'exemple, d'une vie un peu dissolue, toujours aux quatre coins du monde, ça pour le coup c'est le cas. Est-ce que vous avez réussi à être un papa présent pour vos enfants malgré cet emploi du temps incroyable que vous avez?
Bien sûr. Mais l'important c'est pas toujours d'être là tous les soirs en quantité, mais surtout en qualité. Voilà, écoutez, et puis surtout, un papa heureux dans son travail est un papa
heureux avec les enfants.
Merci Farah Kessri, à deux jours de la fête des mères pour cette chronique sur le sentiment maternel chez les animaux. Farah qui était, précisons à nos auditeurs, hein, en duplex avec nous de chez elle pour des raisons de sécurité. En effet, Farah a beaucoup de mal à respecter la distanciation sociale et les gestes barrières. La mettre en présence physiquement de Bob Sinclair aurait été dangereux.
Voilà, c'est juste la langue.
Oui, mais c'est ton problème, Farah. Juste la langue avec les invités, c'est pas possible en ce moment. C'est pas possible. Il est une des plus grandes révélations musicales de ces 10 dernières années en France.
Ah,
à mon humble avis, je fais bien. Hein. Si je vous dis qu'il a le swing, le soul et peut-être même aussi, comme disent les jeunes, le swag, vous me dites...
Herbert Léonard.
Pas loin, Anne. Bonjour Ben, jadis l'oncle soul.
Bonjour.
Ben, l'oncle soul, qui est plus Ben que l'oncle soul, c'est ce que j'ai découvert en écoutant votre quatrième album. Pour ceux qui, comme certains de mes collègues, en seraient restés à Herbert Léonard, Ben, l'oncle soul, c'est évidemment ça. Ça, c'est votre méga tube. Hein. Mais moi, je vous ai découvert avec cette reprise. Et très franchement, 10 ans plus tard, et je vous le dis en toute sincérité, j'ai toujours pas trouvé mieux. Ça fait partie, selon moi, de ces reprises qui sont encore mieux que l'original. Et pourtant, l'original était loin d'être dégueu. Juste pour le plaisir, Ben, c'est aussi ça. Et c'était incroyable, on découvrait déjà la reprise elle-même était vraiment bien arrangée parfaitement et cette voix, c'était dingue.
C'est super gentil, merci.
C'était vraiment dingue. Et vous voilà, de retour avec un quatrième album, Addicted to You. Et donc si j'ai bien compris, on va commencer par là. Ce quatrième album, c'est plus celui de Ben que de l'oncle Soul. C'est un peu un personnage, l'oncle Soul, qui est un peu trop attaché au premier tube, Soul Man.
Ah, oui, c'est ça, mon premier album, ouais, je trouvais. Et puis...
Ouais, L'Oncle Saul, ça a toujours été comme un sous-titre. Et ouais. À chaque fois qu'on disait bonjour quelque part, on disait le titre avec le sous-titre et tout. Bon, au bout d'un moment, j'ai dit, il faut arrêter. Bonjour, Ben L'Oncle Saul. Ouais, d'accord, mais c'est pas mon nom de famille, L'Oncle Saul. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Bon. et puis voilà, c'était aussi pour marquer un tournant, envie de se débarrasser de. Non pas de mon passé et de mon petit palmarès bien sympatoche, mais plutôt de l'enveloppe Nœud Papillon, le package.
Et là, dans le nouvel album, on va en parler de toute façon pendant ces deux heures, mais effectivement, on voit que vous êtes complètement en prise avec votre époque. Il n'y a plus que le côté vintage, il y a le côté hip-hop, enfin, c'est ultra chébrant comme album, un peu comme nous. Alors Ben, on va parler
on
de cet album.
Depuis 1930, c'est beau, c'est
pas grave. Attendez, en Suisse, il vient d'arriver. Ne m'attaquez pas comme ça.
Par contre, le verlan, c'est trop chébrant. I just wanna stay next to you.
Right next to you. Un très bel album pour faire l'amour, me disait Eva, juste avant le début de cette émission.
Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai fortement pensé.
Vous l'avez pensé, enfin, je l'ai pensé aussi. Hein,
surtout que... sur ce titre.
Oui, c'est... Effectivement, des idées nous viennent rapidement. Vous dites, Ben, nos tubes sont nos meilleurs amis autant que nos pires ennemis. Ils nous apportent la popularité, mais érigent aussi un rempart entre notre public et notre production future.
Ouais, surtout quand on fait un premier tube à 23-24 ans et que on n'est pas encore dans Herbert Léonard joue ses plus grands tubes. On est plutôt dans un truc où on essaye de trouver la prochaine dalle sur laquelle s'appuyer pour pouvoir avancer. Après, je peux comprendre que quand on m'a connu avec Soulmen, si je ne la fais pas à un concert, les gens vont être déçus.
Bah, vous avez eu des gens qui vous ont engueulé pour ça.
Exactement.
C'est un papa qui vous avait dit qu'il était venu. Vous avez dit traité de connard. Franchement, il vous a traité de connard.
Ouais, il m'a dit connard, mais c'est... franchement, je me suis mis à sa place. C'était presque mérité. Quoi. C'était... Bon, d'accord, il avait ramener sa fille de 9 ans, elle voulait écouter Petite Sœur ou Soulmen, je sais plus, un des deux, et elle l'a pas eu, elle s'est mise à pleurer. Et lui, il me connaissait même pas, et il voulait faire plaisir à sa fille, quoi. Et l'arrivée, il est venu me voir à la fin, au dédicace, il est venu me voir, t'as même pas fait la chanson. Hein. Oui, c'était un gars du sud. Connard.
Bon, je vais quitter ce studio.
Addicted, oui, parce qu'elle a perdu un peu son accent, mais elle est complètement du sud. Addicted to You, c'est le quatrième album de Ben, et Eva est déjà accro.
Ah ouais.
À l'album. Attention, Ben est avec nous. Vous écoutez L'Équipée Sauvage avec Ben, notre invité cet après-midi pour son quatrième album Addicted to You. Addicted to You, c'est qui le You dans... Eva a cru que c'était un album qui lui était dédicacé, mais j'ai essayé de lui expliquer que non.
Mais c'est pour toi. Merci, Ben.
Dites-nous la vérité. Est-ce qu'une femme se cache derrière ce You ?
Mais bien sûr qu'il y a ma petite chérie qui se cache derrière ça. Il y a ma petite femme. J'ai jamais été aussi heureux qu'avec cette femme. C'est génial, non ?
D'après ce que je lis dans les interviews,
vous avez même fait un enfant avec elle.
Vous avez même fait un enfant. Ouais. Vous avez concrétisé cet amour. Attention, elle bosse. Hein.
Et
elle
s'est transformée.
Quel âge elle a, cette petite fille ?
Ma fille, elle a fêté ses 1 an le 7, donc il y a 2 jours.
Est-ce que ce sera une petite fille qui sera élevée de manière, j'ai envie de dire, conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle écoutera La Reine des Neiges, ou bien il y aura des règles qui sont fixées très vite à la maison ?
Alors oui, c'est interdit. Je pense que ce sera
l'âme trop à la mode. Et vous aviez chanté d'ailleurs dans We Love Disney.
Dans Oui,
Love Disney. Ça, c'était une autre compilation dont on a beaucoup moins parlé.
Ouais, j'avais fait l'oncle Louis, Whoopidoo, pour Disney. Ouais.
L'oncle Louis qui n'est pas Émile Louis.
On vous les conseille, les We Love Disney. Non, mais franchement, c'est des très très bons albums.
Mais
si vous aimez le jazz et les
Eva,
reprises de Disney.
Tout est pensé dans cette émission. Je lance
vaguement
comme ça une petite pierre maintenant, mais voilà, on va en parler tout à l'heure.
D'accord.
De We Love Disney. Face à vous, Ben, une compétitrice assoiffée de revanche. Pour elle, tous nos 188 précédents invités ne forment qu'une masse informe réunissant tous ceux qui l'ont battue et parfois humiliée sur notre quiz de Culture G et qu'elle appelle donc tout simplement...
Bande de bâtards. Voilà.
Bonne chance, Ben, c'est l'heure du quiz. Alors... Serez-vous un bâtard de plus ou un perdant ? Ben, le quiz sera un quiz musical et je dirais même plus, un quiz soul. C'est parti. La première question est une question de rapidité. Le premier qui a la réponse la donne, ce qui est assez logique. Je vous fais écouter parfois des trucs qui sont écrits là-dessus qui sont dingues. Je vous fais écouter un titre de James Brown, mais attention, il a été remixé avec un deuxième artiste. Lequel ?
Jean-Michel Jarre.
Ce n'est pas Jean-Michel Jarre, c'est incroyable.
Récent, c'est
pas beaucoup plus récent.
Non, Voyage, Voyage.
C'est énorme ce mix. Et oui, souvenez-vous, Désirless. Voyage, Voyage. Désolé, on l'avait qu'en vinyle, il est terrible.
C'était atroce.
C'était vraiment un mix intéressant. HRB.
Oh, j'aimais bien. Mix.
Deuxième question.
Mais oui, c'est vrai.
Ne trahissez pas vos goûts musicaux, là. Deuxième question. Le principe inverse, je vous fais écouter un titre de Katy Perry. Elle s'est mélangée, la coquine, avec un chanteur soul. Mais lequel ?
Otis Redding.
Vous vous faites défoncer, Emma, sur ce quiz.
Ah
et
non,
c'est une bonne réponse.
Non, je suis pas. Moi, je sais fair play. Je suis fair play.
Mais oui, mais parce que je suis nul en blind test, il fait exprès.
Écoutez un peu Otis Redding. C'est fou comme Otis Redding, c'est mieux que Desireless quand même.
Ah bah,
c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la musique. On adore Desireless, mais il y a quand même des choses qui sont indépassables. The Duck of the Bay, on l'a plus qu'en vinyle, mais on a fait gaffe, il est pareil. C'est beau,
oui,
hein.
C'est trop magnifique.
Ouais, c'est beau, ça. C'est
question de rapidité maintenant. C'est là où vous êtes vraiment la meilleure.
Ouais, arrêtez.
Qui est ce chanteur soul? Le premier qui donne la bonne réponse marque un point.
Oui, c'est Ray Charles.
Vous dites
oui,
Ray Charles. Et vous dites.
Ah oui, Ray Charles.
Mais vous dites aussi Ray Charles.
Et c'est pas ça.
Réfléchissez bien, Eva. Si vous dites Ray Charles,
non.
C'est un immense compliment pour la personne qui est en train de prendre.
Non, c'est quelqu'un qui imite Ray Charles.
C'est quelqu'un qui imite Ray Charles.
Mais Ray Charles en fin de carrière, il faut le préciser.
Ouais.
Là, vous modérez votre... Ouais. Eh bien, figurez-vous que c'est Michel Leeb. Au piano, ouais. Chantant comme Ray Charles, il l'imite d'autant mieux qu'il avait mis des lunettes noires, ce qui fait que c'est encore plus réussi.
C'est pour ça qu'on l'a pas reconnu tout de suite.
Et
en fait.
C'est certainement ça.
C'est les lunettes.
C'est certainement ça. Et donc, zéro point.
Oui, ouais, ça va.
Question juste pour vous, Eva.
Oui.
Juste pour vous, j'ai une version de You Make Me Feel Like a Natural Woman d'Aretha Franklin, chantée par Patrick Juvet. Est-ce que j'ai ça, oui ou non, dans ma discothèque?
Oh, bah alors ça, c'est fort possible.
Je serais très curieux de l'entendre.
Ouais, c'est pas possible. Non,
c'est pas possible.
Ouais, vous pouvez pas avoir inventé ça.
Ouais, eh ben, c'est faux.
Ah,
J'aurais rêvé, mais je ne l'ai pas. Question juste pour vous, Ben l'oncle Saul. J'ai une version de Back to Black de Amy Winehouse chantée par Amanda Lear. Chez moi. Vrai ou faux?
Faux, complètement.
Complètement.
Oui, complètement faux.
Vous n'êtes jamais venu à la maison.
I'll go back to black.
Mais non.
Mais si. Mais bien sûr.
Oui, on
c'est marrant.
Ouais.
Il sait rester poli, c'est vraiment un garçon charmant. Dernière question de rapidité, quel artiste a fait cette version soul de Seven Nation Army des White Stripes?
Ah, c'est pas mal ça.
C'est assez bon ça.
Ah, ça me dit un truc. C'est pas.
Ça me rappelle vaguement quelque chose.
C'est pas le mec qui avait fait Soulman.
Ah ouais, c'est ça. Donc non, alors c'est tout. Alors, je vais dire, en plus,
c'est
elle est
moche.
Juste un tout petit peu connue, sa reprise. Donc
mais
le fait de ne pas l'avoir, ça te vaut moins 5 points.
Mais non.
Ce qu'il faut que de toute façon, c'est Ben l'oncle Saul qui remporte le quiz.
Quel escroc. Vous racontez pas ce qui vient de se passer.
Qu'est-ce qui vient de se passer?
Qu'est-ce que je vous ai fait comme signe?
Tu m'as fait un signe que tu pensais que c'était ça.
Mais je voulais pas dire une connerie.
Mais tu ne peux pas le penser, tu dois le savoir.
C'est
Ben l'oncle Saul, on le reçoit, on a bossé son dossier.
Mais
et en plus, la chanson, on la connaît tous. Donc la meuf, elle me dit
j'ai pas dormi de la nuit, j'ai des cernes.
Ça serait pas Ben l'oncle Saul. Bah oui, en fait, c'est notre invité. Bon, bref. Bravo, Eva, vous avez perdu. Il est l'auteur des Cahiers d'Esther dans le tome 5, sort jeudi. Riyad Satouf passe l'après-midi sur Europe 1. Est-ce que vous êtes branché nouvelle technologie, Riyad?
J'adore.
Vous êtes un peu geek?
Ah oui, complètement. Alors là, je suis obsédé par les téléphones, les réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram que je passe ma vie
dessus. Oui, vous êtes très actif.
Enfin, j'adore la science, etc. Non, complètement.
Axel de Tarlé aussi. La preuve, la semaine dernière, il a découvert le concept du stockage à distance des données dans le Astrapi hors série de son fils.
C'est ce qu'on appelle le cloud.
Waouh ! Heureusement, on a à Europe 1 un type qui s'y connaît un peu mieux en nouvelles technologies. C'est Anissé Mbida, notre premier concurrent cet après-midi. C'est votre rêve depuis tout petit, pouvoir devenir invisible afin de mater, j'imagine, en toute discrétion.
Non, mon rêve, c'est devenir Spider-Man et grimper sur les murs, c'est autre chose.
Vous seriez pas mal dans l'atelier Spider-Man, mon salaud.
Non, justement, je vous parle de cette fameuse pilule qui aura invité, parce que c'est un tour de force qu'on doit à des chercheurs de l'université d'Irvine aux États-Unis. Ils travaillent sur ce qu'on appelle le biomimétisme. J'en parle assez souvent, hein. C'est quand la technologie va s'inspirer de la nature. Et eux, ils se sont inspirés des calamars, parce que vous savez que les calamars, ils peuvent changer de couleur, ils peuvent même devenir complètement transparents, pas invisibles, mais en tout cas transparents. Ils les ont étudiés et ils ont découvert qu'à l'intérieur de ces fameux calamars, ils avaient une protéine un peu spéciale qui pouvait leur permettre de changer de couleur et devenir transparent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, cette protéine, ils l'ont intégrée à des cellules humaines, des cellules d'hommes et de femmes. Et ces cellules-là sont devenues transparentes à la demande. Ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut, on a tous les ingrédients pour fabriquer une pilule qui pourrait nous rendre invisible ou du moins transparent.
Et avec des tentacules.
Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi penser de vous.
Mais ça sera bizarre.
Quelle est la prochaine étape ? C'est-à-dire qu'on pense à faire des essais plus élaborés, je sais pas.
Alors moi, je vais décevoir tous les refroidir les voyeurs et puis rassurer tous les anxieux. Hein. S'il y a peu de chances que ça sorte des labos, hein, parce que ça pose énormément de problèmes éthiques. Hein. Ça nous amuse, mais ah, oui. Vous imaginez ça vendu, ça c'est pas possible. Mais en fait, ça fait partie de toute une frange de la médecine qui est financée par l'armée et qui cherche à donner des super pouvoir aux soldats en s'inspirant des animaux, en prenant des propriétés des animaux. Et la semaine dernière, par exemple, il y a une équipe sino-américaine, des Chinois et des Américains, qui ont présenté des gouttes qui permettent de voir dans le noir. Ce sont des gouttes qui permettent de voir la lumière, enfin là, c'est des infrarouges, qui rendent visibles les infrarouges. Donc l'objectif...
Mais même pas pour les militaires, même quand t'es bourré, tu rentres de soirée, t'as oublié ton... tu mets les gouttes et tout à coup tu vois dans le noir, tu rentres chez toi, c'est bien.
Mais eux, l'intérêt, c'est de remplacer les grosses jumelles, vous savez, les grosses jumelles quand ils partent en mission, là. Donc ils se disent, si on pouvait mettre des gouttes, ça serait beaucoup plus simple. Mais tout ça, ça passe pas les comités d'éthique. On veut pas faire des tests sur les humains parce qu'évidemment, ça pose des problèmes quand on cherche à augmenter l'homme. Mais le seul secteur dans lequel les comités d'éthique sont d'accord pour s'inspirer des animaux, ils encouragent même à le faire, c'est quand on veut toute la recherche qui cherche à s'inspirer des salamandres pour faire repousser les membres.
Ah oui,
ça l'intérêt, c'est pour faire repousser un rein, refaire pousser un poumon ou une jambe, c'est parce que ça pourrait complètement transformer la médecine. Hein. On n'est pas en train de mettre des prothèses, on pourrait directement régénérer des parties de notre corps. Donc des chauves-souris, s'inspirer des chauves-souris pour voir dans
attention
le noir.
Attention avec les chauves-souris.
Des calamars.
Attention, pas trop travailler avec les chauves-souris.
Pour devenir invisible, des lézards ou des araignées pour marcher sur les murs. Non, mais des salamandres pour faire repousser les membres, ça oui, on travaille dessus et ça va vraiment arriver.
Eh bien écoutez, à chaque fois, vous me faites rêver Anissé, même si tout ça n'arrivera jamais, c'est bon de rêver. Merci Anissé Mbida. Axel, quelle que soit la rivalité qui vous oppose, il faut reconnaître qu'Anissé a signé une belle chronique. Qu'est-ce qu'elle vaut selon vous ?
Un soda Pringles.
Oh non. Saviez-vous que les peintures de la grotte de Chauvet datent de 15 000 ans avant Lascaux, ou bien qu'il y a 24 statues de la liberté en France, ou encore qu'il existe un musée consacré aux vampires ? Philippe Goagen, vous êtes le cofondateur du Routard et vous nous présentez aujourd'hui le guide de nos vacances en France, Voyage France, très beau livre illustré. Il y a même une petite partie sur la France coquine qui a beaucoup plu à Eva Rock. La France coquine, on peut visiter par exemple le château du Marquis de Sade.
Oui, le château du Marquis de Sade est dans le Luberon, racheté par un homme illustre, Pierre Cardin. Et donc, en fait, lui, c'est simple, il a racheté tout le village et, il en a fait quelque chose d'assez extraordinaire, avec un tout petit inconvénient, c'est que ça a chassé les habitants.
Et oui. Il paraît que c'est très vide comme endroit. Ouais, malheureusement, c'est beau, ouais. Mais c'est très vide.
Voilà.
Alors, Philippe Goagen, la France est certes séduisante et a beaucoup à nous offrir en termes de tourisme, mais je vous propose maintenant de partir en Belgique, retrouver la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, Isabelle Horry, qui va nous parler des schtroumpfs. Des schtroumpfs en couillus, puisqu'ils partent, Isabelle, à la conquête de la Chine, le berceau du Covid. Est-ce que c'est vraiment le moment pour les schtroumpfs ? Ou alors peut-être ils sont immunisés, dans leur constitution.
Ouais, c'était prévu avant, donc c'est vrai que c'est une coïncidence de date un peu compliquée pour eux, mais quand même, voilà. Alors en fait, je vais vous parler du premier parc d'attractions qui est entièrement dédié aux schtroumpfs et qui vient d'ouvrir à quelques kilomètres de Shanghai. Alors c'est vraiment la consécration, enfin, pour le schtroumpf à lunettes, le schtroumpf maladroit et toute la bande. Consécration donc à 7600 kilomètres de la Belgique, le pays, leur créateur. Parce qu'à 60 ans, c'est leur premier parc rien qu'à eux. Et donc, ils vont enfin pouvoir rivaliser avec Mickey ou Astérix, par exemple.
Si je puis me permettre, Isabelle, ça aurait peut-être été plus simple de le faire à côté de Bruxelles, ce parc à thème sur les schtroumpfs.
Ouais, alors ils l'ont fait en Chine parce qu'en fait, il y a une vraie histoire d'amour entre les Chinois et les schtroumpfs. Alors, pas tellement à cause de la BD, plutôt en fait grâce au dessin animé des années 80.
Mais nous n'avons pas peur. Voilà. Nous avons toujours vainqueur.
Eh bien, figurez-vous en fait que ce dessin animé, c'était la seule série étrangère autorisée à l'époque par le Parti communiste chinois.
C'est vrai que c'était pas très transgressif,
les schtroumpfs. Et aujourd'hui encore, les épisodes ont un grand succès. Et écoutez ce que ça donne, les schtroumpfs doublés en chinois. Alors là, c'est Gargamel avec le grand schtroumpf. C'est Gargamel avec le grand schtroumpf. On reconnaît assez bien quand même. Alors, et vu que je parle couramment chinois, je vais donc quand même pouvoir vous dire que schtroumpf en chinois, c'est Lan Jin Ling. Ça veut dire petit esprit bleu. En fait, le chinois, c'est la seule langue dans laquelle le nom des lutins a un sens. Et si vous voulez, je peux même vous traduire le nom de l'infâme Gargamel en chinois. Oui. Hein, ça donne Gegeou. J'aime beaucoup Gegeou.
Gegeou. Alors, d'accord, mais il n'y a pas que les Chinois qui aiment les schtroumpfs. C'est un peu court, votre explication, Isabelle, quand même.
Bon, en fait, si le parc s'installe en Chine, quand même, c'est aussi parce qu'il vise entre 6 et 10 millions de visiteurs par an. Mais seulement, voilà, seulement, en fait, les 5-9 ans et leurs parents. Il n'y a pas de montagnes russes dans ce parc qui font peur pour les plus grands, par exemple. Et c'est en Chine qu'il y a le public potentiel le plus large dans cette tranche d'âge, m'a expliqué la société qui gère la marque. Et surtout, en Chine, les parents sont prêts à dépenser de l'argent pour leurs enfants, mais à condition qu'il y ait une dimension éducative.
Et en quoi les schtroumpfs font-ils une dimension éducative?
Et ben, en
déjà,
fait,
en termes de parité, si vous pensez qu'il n'y a qu'une schtroumpfette pour 40 schtroumpfs,
non, mais dans les épisodes les plus récents, il y a, une petite fiche schtroumpfette, il me semble. Ouais. Et bien oui, en fait, c'est parce que depuis 2016, les schtroumpfs, c'est très officiel, ils sont ambassadeurs des Nations Unies pour le développement durable.
Depuis que mes parents ont quitté les Nations Unies, ça part en couille, cette institution, je vous le dis.
Et donc, dans le parc, votre enfant, enfin, le petit enfant chinois en l'occurrence, et bien, il participera à des attractions en réalité virtuelle. Alors, il sera un schtroumpf, mais voilà, il sera chargé de ramasser des déchets dans la mer et de les trier. Voilà, c'est un parc à terme qui apportera de la joie et qui aura une influence positive sur les jeunes. C'est ce qu'a déclaré le partenaire chinois du parc lors de l'inauguration. Et voilà, le parc ludo-éducatif, apparemment, c'est un marché très porteur en Chine.
Un parc à thème qui, me signale Philippe Gloyen, ne figurera pas dans l'édition du Routard. Je pense que...
Non, mais pourquoi pas si c'est éducatif?
Pourquoi pas
oui.
À côté de la Grande Muraille.
Ludo-éducatif avec une dimension communiste, ça va être quand même difficile de le recommander, peut-être. Bah, merci. Merci beaucoup, voilà. Isabelle Horry. C'était schtroumpfement intéressant. Accueillons notre invité d'honneur qui joue dans le nouveau Lelouch, bientôt sur Canal+. Une actrice formidable, ça, on le savait. Ce qu'on savait moins, Eva, avant de la suivre sur Instagram, c'est qu'elle partageait en tout point notre philosophie de vie. Et quand je dis en tout point...
Je crois que il faut rire beaucoup, il faut rire. C'est la meilleure façon de brûler des calories. Je crois au baiser. Il faut beaucoup de baiser, beaucoup baiser, beaucoup baiser.
Ah, les bons esprits se rencontrent. Bonjour Elsa Silberstein.
Bonjour.
On va évidemment parler de votre rôle dans le nouveau film de Claude Lelouch et de tous les autres films qui arrivent, puisque vous êtes dans une sorte d'état de grâce cinématographique. Mais d'abord, un mot sur ces petites vidéos avec le hashtag Mytho sur Instagram. Chaque jour, une scénette décalée où vous prétendez faire quelque chose de techniquement impossible durant le confinement, comme par exemple organiser une teuf, aller chez le coiffeur, voire sur la lune. Comment est née l'idée de ces petites vidéos?
Vraiment très simplement, après une discussion avec Gad Elmaleh au téléphone, c'est pas lui qui m'a donné l'idée, mais en discutant, il me dit « Ah, les filles peuvent plus partir en soirée en faisant genre « Je me suis habillée, je me suis maquillée, je pars à une soirée ». J'ai raccroché, je me suis dit « Tiens, je vais le faire ». Voilà, c'est aussi bête que ça. Et en fait, du coup, l'idée est venue de créer ce petit personnage de fille totalement libre. Et je pense que pour les gens, ça... Enfin, je l'ai fait de manière très spontanée. Parfois, à 7h du soir, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je dis « Bon, qu'est-ce que je vais faire ?» Et en fait, c'est les gens, et je le dis parce que je trouve que c'est beau, c'est le lien que j'ai avec le public qui a créé, qui a continué à me motiver et à me dire « Faut que je le fasse pour eux ». Parce que les 600, 700, 800 000 commentaires par jour étaient tellement dingues que je me disais « Il faut que je leur dois ça ». Donc j'ai dit bon, on va aller à la plage, on va commander des cafés en terrasse, on va aller sur la lune, on va aller à l'aéroport,
le festival de tournée,
le festival de Cannes.
Parfois, y avait
dans mon hall d'immeuble.
Plus ça allait, plus il y avait des moyens dans le tournage. Il y avait des mises en scène.
Alors,
et ça devait vous prendre.
Tout, à part quand je suis au lit avec Brad Pitt, bon là il y a un montage.
Ah c'était pas.
Même pas. C'était juste nettoyer la voix de Gina Davis à ce moment-là. C'est beau d'ailleurs de se dire qu'on peut faire quelques petits trucs avec peu de choses. Voilà.
Chaque jour du confinement, vous avez posté sur les réseaux une petite vidéo vous mettant en scène avec le hashtag Mytho. Ça a permis à vos fans de suivre votre quotidien confiné. Comme par exemple le 24 avril dernier, moi par exemple je faisais des pancakes. Bon, vous?
Comme vous pouvez le constater, je suis en train de quitter la Terre pour aller sur la Lune. Voilà. C'était un vrai rêve d'enfant et je me suis dit que c'était le bon moment. En tout cas, la Terre est belle quand on la regarde de loin. Merci Thomas Pesquet pour ton soutien, pour ta patience.
C'était vraiment... Alors, désolé, non, Elsa.
C'est hyper drôle.
Elsa Silberstein, très franchement, je sais pas, peut-être que je vous connaissais pas suffisamment avant ces vidéos. Je savais que vous étiez une super actrice, très drôle dans les comédies aussi, mais je savais pas que vous aviez ce talent pour la comédie dans des pastilles comme ça.
Moi non plus.
Au quotidien. Vous êtes découvert un nouveau talent pendant le confinement.
Je sais pas, ça m'amusait. Un jour, on regardait Gravity, le lendemain, j'ai dit tiens, je vais aller sur la Lune. C'était aussi bête que ça. Donc j'ai porté un vase sur le côté pour faire comme si j'avais un truc avec une chemise blanche, tout simplement. J'ai dit tiens, je vais me prendre pour Sandra Bullock. Ça a fait rire tout le... Enfin, ça me fait rire moi, donc peut-être ça fera rire les gens, mais c'était vraiment ça. Voilà.
Comment vos voisins ont vécu vos vidéos? Parce qu'il y a certaines qui sont mises en scène dans la cage d'escalier, notamment la danse de l'aspirateur.
Ah, la danse de l'aspirateur. En fait, sur mon palier, je suis seule. Donc ça aide. Voilà. Mais ma concierge est fan et j'ai failli la mettre dans une des stories. C'est mon amie, ma concierge, je l'adore. Que je salue Carla d'ailleurs. Et du coup, non.
Ça n'a jamais personne, tout le monde était très content.
Tous les meubles et les fans, je crois, en fait.
C'est parfait.
Ils ont osé le dire petit à petit.
Vous savez qu'on a reçu Benjamin Biolay qui nous disait que ses voisins étaient venus gueuler parce qu'il faisait trop de bruit en faisant
oui,
de guitare.
Il faisait trop de répétition.
En fait, je lui ai posé la question parce que quand même c'est Benjamin Biolay et il nous a expliqué qu'en fait ses voisins étaient des Américains ou des étrangers qui ne savaient pas du tout qui était Benjamin Biolay.
Ah,
donc on pensait que c'était un mec
qui
s'amusait à faire de la guitare et ça les énervait. Vous écoutez L'Équipée Sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 sous l'égide aujourd'hui d'une actrice épatante qui a su rester simple malgré le succès. Attendez, là elle raccroche.
Yes, thank you so much. Love you.
Oui.
C'est Lady Gaga qui me propose de chanter avec elle en live samedi dans son concert live. Quoi. C'est insensé.
Bien sûr, vous l'embrasserez pour moi. Avec nous cet après-midi, Elsa Zilberstein, devenue le temps du confinement. Vous l'entendez, la reine des mythos sur Instagram. On s'est bien marré avec vous. Et samedi soir, on vous retrouve sur Canal+ pour une soirée Claude Lelouch avec le nouveau Lelouch dans lequel vous jouez La vertu des impondérables. Alors déjà, rien que le titre. Dans une époque, beaucoup trop de titres de films, je trouve, sont fadasses ou tout simples. Là, c'est un vrai beau titre qui, en plus, dit le pitch du film, finalement.
Oui, ça ressemble beaucoup à Claude Lelouch. Finalement, c'est comment transformer des choses impossibles, comment transformer, positiver des drames qui peuvent vous arriver.
C'est ce qu'a fait Claude Lelouch. Alors, je ne sais pas si on peut parler de drame, mais en tout cas, de grosses tuiles. On lui a volé son scénario, ses notes, en tout cas.
Oui, on lui avait volé un jour Avenue Hoche, on lui a volé son scénario.
Et donc il a su, au lieu de, il a su rebondir et créer un film à partir de ça.
Bah, il pense toujours que tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, Claude. Donc c'est comment on rebondit, mais je crois qu'il faut tous être comme ça.
Vous partagez cette philosophie ?
Oui, je suis assez comme ça.
Oui, parce que alors, dans le film, il faut quand même le dire, c'est un drame qui est beaucoup plus grave que la perte d'un scénario, même si un des personnages perd effectivement un manuscrit.
Mais c'est un clin d'œil.
Une explosion d'une voiture qui fait...
On ne peut pas trop en dire.
Dans un village.
Non, mais ça, on peut le dire,
à Beaune.
Voilà, exactement.
Une
explosion de voiture qui provoque beaucoup de victimes, plusieurs victimes en tout cas. Et est-ce qu'on peut tirer du positif d'une telle situation? Alors, évidemment, on pense aux attentats, etc. Mais c'est vrai que on disait hors micro de voir ce film aujourd'hui après le confinement.
Ça résonne.
On se pose quand même la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont trouvé quelque chose de positif dans cette épreuve-là? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont perdu des êtres, etc.
C'est compliqué de parler des gens qui ont perdu des êtres parce que ça, il n'y a rien de positif. Donc ça, c'est compliqué à dire.
Mais sur des tracas de la vie, en tout cas, ça permet de relativiser.
C'est terrible, c'est que de la peine. Mais dans d'autres cas, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont été vers le mieux d'eux-mêmes ou qui ont fait une introspection positive ou qui se sont posé les bonnes questions ou... Que sais-je ?
En tout cas, moi, ça m'a donné des idées. Je sens que le génie de Lelouch déteint sur moi. Si cet été, Eva, je tournais un film à l'iPhone et vous seriez ma muse. On commencera par la scène du plan A3. Tenez, voici le script.
Les deux frères Bogdanov.
Ah bah oui, à ce tarif-là, c'était les seuls disponibles. Il n'y a pas écrit Lelouch. Il avait percé avec... Mais il revient avec Addicted to You, un quatrième album. I know your eyes are on me, voilà. I'm addicted to Eva, quel effet vous fait cet album?
Je me fais des petites listes avec les chansons, puis je mets des petits plus.
Pour mettre à quel moment les diffuser dans votre soirée,
non,
c'est ça?
Non, les petits plus pour celles que j'aime le plus, parce que dans un album, vous avez toujours...
Oui.
Mais là, j'ai mis des plus partout, en fait.
C'est vrai que
c'est ridicule.
C'est vraiment un très très bel album. Quand on écoute votre musique, on est surpris par la variété des influences. Alors, c'est plus du tout que soul, c'est jazz, pop, reggae même. Est-ce qu'il y a une musique que vous n'aimez pas? Un courant musical que vous ne travaillez pas, parce que c'est pas votre truc?
Non, je continue d'écouter, de rester ouvert en fait. Ouais. La musique, vaut mieux se concentrer sur ce qui est bien que ce qui est chiant. Mais il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles s'inspirer, se baser. J'ai encore pas fait mon petit hommage à Fela Kuti et tous ces trucs-là que j'adore, mais j'en ai toujours pas mis en fait dans ma musique.
Ah oui, côté un peu africain et tout ça.
Africain, ouais,
c'est vrai. Comment une question que je me suis posée il y a 10 ans déjà, quand vous êtes apparu comme ça, comment vous faites pour avoir... votre voix, c'est un don de dame nature, mais votre accent anglais qui est absolument parfait, c'est-à-dire qu'on pourrait, les Américains pourraient croire que vous êtes né à Brooklyn, comment, d'où il vient, vous êtes né à Tours, quel rapport? Expliquez-moi, c'est agaçant.
C'est Tours, mais c'est la côte ouest. Quand même. C'est le French California. Je pense que j'ai l'oreille, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment travaillé. En fait, même avant de parler anglais, j'avais l'accent. Alors, j'ai toujours écouté de la musique afro-américaine.
Oui, quoi. Mais moi aussi.
Ouais. Mais moi aussi, et tout c'est à pas pour ça
que j'ai votre accent. Alors, les amis, l'été approche et ce satané Covid risque de contrarier nos plans, surtout pour les amoureux de musique et de festivals. En effet, Eva, si on ne trouve pas une solution viable d'un point de vue sanitaire, qu'est-ce qui va le plus vous manquer cet été ?
Le sexe, évidemment.
Non, les festivals, les concerts, Eva. Heureusement, Benjamin Péter, le plus suisse des Toulousains, semble avoir la solution, puisque Benjamin, vous nous parlez de ce concert qui s'est déroulé à Albi en drive-in. On a du mal à se rendre compte. En quoi ça consiste exactement ?
Eh ben, ça donne un peu l'impression d'être plongé dans le dessin animé Cars. 180 voitures qui ont pris place face à la scène, qui avait été installée pour l'occasion au Parc des Expositions, ou plutôt sur le parking du Parc des Expositions pour voir jouer les têtes d'affiche Tibbs et Boulevard Désert. Yes,
Albi, tu es la seule. Tonton, si je reste ici.
Alors l'idée c'est que chacun reste dans sa voiture. Bon, je vous cache pas que certains se sont quand même installés sur les capots ou les portières, mais ça permet quand même de respecter les gestes barrières. Et pour le son, aucune enceinte en façade. Pour les voisins d'ailleurs c'est l'idéal. Suffit de brancher son autoradio sur une fréquence FM qui avait été spécialement louée pour l'occasion et tout passe par le son de la voiture. Le risque c'est juste de tomber en panne de batterie, c'est arrivé à certains. Mais pour le public c'est vraiment une libération, pouvoir enfin retourner voir un concert.
Oh, moi j'aurais pas loupé ça, hein. Moi je suis frustrée de plus aller au concert, donc je me suis dit j'y vais.
Petit à petit on retrouve un peu de liberté, on sait que ça va aller mieux et que cet été on va pouvoir profiter à 100%, c'est le plus important.
Alors l'autre avantage c'est que c'est tout confort, vous êtes bien installé, s'il pleut un coup d'essuie-glace et c'est réglé, et certains avaient vraiment tout prévu.
Et on avait de la salade de fruits, des bonbons, on peut même s'allonger et on a des oreillers, on a tout à l'arrière. Voilà. C'est comme à la maison. Après, il manque un peu, on a envie d'aller crier devant la scène un peu quand même. Mais bon, ça fait du bien de sortir et de pouvoir écouter un peu la musique.
Alors, pour les spectateurs, je vois l'intérêt, mais comment ça se passe ? J'imagine, pour les artistes, ça doit être extrêmement perturbant quand même de jouer dans ces conditions.
Oui, par exemple, pour les applaudissements, on n'entend pas grand-chose. L'ambiance est forcément différente.
Klaxonner, bah oui.
Et bien justement, vous allez l'entendre, tout le monde s'est vite adapté. Pour Florent Dasque du groupe Boulevard Désert, l'expérience était assez étonnante.
D'avoir une réponse, comme tu peux l'entendre, aux paroles qu'on lançait sur scène, ça a fait plaisir de retrouver les gens.
En fait, toutes les réponses des gens étaient des klaxons. Donc c'est intéressant. Tu leur demandes de chanter, ils klaxonnent. Tu leur demandes d'applaudir, ils klaxonnent. Tu leur demandes d'appeler dans les mains, ils klaxonnent. Il y avait des appels de phare aussi, c'était la variante du soir. Non, mais c'était très drôle. Ça nous a fait en tout cas extrêmement plaisir d'être là sur scène.
Voilà, et à sa descente de scène, Tibbs nous confiait que c'était d'autant plus déroutant pour lui que lui n'a pas le permis.
Ouais, non, j'ai pas le permis. C'est un peu le comble là. Je suis pas très automobile. J'ai même un peu peur de ça. C'est rigolo. Je raconterai ça à mes enfants, à mes petits-enfants. J'ai joué devant des bagnoles, les gars. Ouais.
Benjamin, c'est très rigolo, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se généraliser cet été, notamment ? Ça pourrait être une solution pour voir des concerts ?
À court terme, pourquoi pas, hein. D'ailleurs, Boulevard Désert doit participer à un autre concert en drive-in à Tarbes le soir de la fête de la musique. Mais les artistes le reconnaissent tous, c'est loin d'être l'idéal. L'expérience est amusante, mais ça n'a rien à voir avec la chaleur du vrai public. Et tous n'espéraient qu'une chose, pouvoir reprendre les tournées normalement, mais ça permet de refaire travailler du monde. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont accepté de venir jouer bénévolement, pour permettre à des régisseurs, des ingénieurs du son de retravailler tous ces intermittents dont toutes les dates ont été annulées depuis le début du confinement.
Eh bien, merci beaucoup, Benjamin Péter. Ben, vous seriez capable de jouer comme ça pour des voitures ?
J'ai toujours adoré le concept du drive. Moi, je trouve ça sympa pour le cinéma. Pourquoi pas pour la musique, ouais, ça peut être sympa.
Mais vous avez un concert qui est déjà, maintenu cet été, en fait, au mois d'août.
Exactement, c'est à Ajde. Et en fait, ce sera les scènes flottantes, ça s'appelle. C'est le 4 août.
Effectivement. Et pour fêter ça, Eva, 10 secondes de votre prochain tour de chant.
Oh non.
Alors, réflexion faite, 5 suffiront. C'est bon. Vous écoutez l'équipe sauvage et la grande compétition entre dans sa dernière ligne droite. Un seul de nos journalistes sera couronné chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité Riyad Satouf, peut-être notre ultime concurrent, le torturé Fred Goetti, directeur de Jazz Magazine et patient de l'unité psychiatrique de l'hôpital Cochin à Paris. Son médecin référent est confiant, il fait des progrès exceptionnels, même s'il voit toujours Prince dans sa chambre et qu'il ne supporte pas quand l'infirmier lui dit ce n'est pas Prince.
C'est jaloux notre bonheur.
Moi je crois en vous Fred, je ne jamais contredire un malade. Cet après-midi Fred, vous n'êtes pas venu avec Prince mais avec un autre pote à vous, Spike Lee, avec qui vous êtes je crois cul et chemise, ass and shirt comme on dit à New York.
Alors, Spike Lee le disait pas plus tard qu'hier dans le journal du dimanche, la musique a toujours tenu une grande place dans mon cinéma. C'est vrai qu'avec Quentin Tarantino, il n'y a pas meilleur que Spike Lee pour donner à une chanson presque autant d'importance parfois qu'un personnage, ce qui ne l'empêche pas évidemment de travailler aussi avec des compositeurs de musique de film. Et depuis plusieurs années, c'est Terence Blanchard, un trompettiste de la Nouvelle-Orléans, qui fait le job. Mais au début, c'était son père, le contrebassiste de jazz Bill Lee, qui lui concoctait ses bandes-son, comme celle de son émouvant, drôle et toujours aussi puissant troisième long-métrage de 1989, Do the Right Thing.
Spike Lee, c'est le fils d'un jazzman, mais on sait que c'est aussi un dingue de soul music, de hip-hop aussi.
Ah, ça oui, il peut aussi bien vous faire découvrir une pépite soul des années 70 en piochant dans sa discothèque que demander à, par exemple, Stevie Wonder ou à Prince d'écrire des chansons originales pour ses films. Quant au hip-hop, revenons à Do The Right Thing. Ne me dites pas que vous avez oublié le générique du film Rosie Perez qui danse sur Fight the Power de Public Enemy. Fight the Power! Bon, et pour vous prouver, si besoin était, que Spike Lee peut jouer sur toute une gamme d'émotions grâce à la musique, petit quiz. Dans quel film entend-on cette merveille du chanteur soul Sam Cooke, A Change Is Gonna Come?
Alors, je vais vous décevoir, parce que c'est pas un film de Spike Lee. Moi, cette chanson a été utilisée dans un film qui n'était pas non plus un très très grand film, mais sur Mohamed Ali avec Will Smith.
Avec Will Smith.
C'est pas un film, c'est pas
mais
un
non,
film.
Mais non, mais sinon
Spike
c'est dans Malcolm de Spike Lee.
Autant pour moi.
Bravo Eva, c'est dans Malcolm X, le biopic de Malcolm X. Alors, c'est la scène finale où Malcolm X va se faire assassiner, on ne sait pas encore, à l'Audubon Ballroom. Alors, à propos de chansons historiques et bouleversantes, dont les paroles sont hélas toujours d'actualité, Spike Lee utilise dans son nouveau film, Da Five Bloods, Frère de Sang, une chanson inspirée par les lettres d'un soldat qui avait fait la guerre du Vietnam, des lettres envoyées à son frère, qui disaient toute l'horreur et l'absurdité de ce conflit. Ce soldat s'appelait Frankie Gay, son frère Marvin, et la chanson, vous avez deviné, c'est What's Going On, l'hymne à la paix et à l'amour de Marvin Gay.
Donc ça, c'est une histoire vraie, c'était des lettres du frère de Marvin Gaye.
Oui, c'est inspiré par les lettres de Frankie Gaye, qui était le frère de Marvin Gaye, bien sûr.
Incroyable.
Et Marvin Gaye, il a eu une vie incroyable, parce qu'il a eu un petit pépin avec son père, je crois, non?
Oui, il s'est fait tuer, hélas, par son père
c'est
en 1984.
C'est incroyable, quand même, la vie de Marvin Gaye.
Et, et les lettres de Frankie Gaye, pour y revenir, ont inspiré aussi, et la chanson, donc, le nouveau film de Spike Lee.
Eva, on en parlera peut-être du
mais
film.
Mais on va parler du film aussi à un moment, Eva.
Oui, je pense qu'à la fin de la semaine, on en parlera. Ça sort vendredi sur Netflix.
Sur Netflix. Oui. Riyad Sattouf, vous êtes fan de Spike Lee ou pas plus que ça?
Ah si, je vais regarder. Oui, bien sûr.
Et la musique, quelle place a la musique dans votre vie et dans votre art? Non, puisque c'est des bandes dessinées. Est-ce que vous êtes un mélomane?
Je travaille en musique, oui. J'écris.
Ceux qui écrivent en musique.
Oui. Alors j'écoute de la musique classique en me disant que si j'écoute par exemple Bach ou Mozart, alors que je...
Leur génie va déteindre sur vous.
Oui, et que pas tant ça, mais que la logique musicale va peut-être stimuler des neurones qui vont rendre mes histoires plus logiques, plus construites. Voilà, j'arrive pas à écouter de la musique avec des paroles, par exemple, pendant que j'écris.
Par exemple, Jules, vous n'écouterez pas Jules.
Mais je l'écoute d'un point de vue plus ethnologique. C'est-à-dire, je le fais très sérieusement.
Pendant le confinement, Riyad Sattouf, vous avez une initiative amusante. Vous avez proposé aux gens de faire des coloriages.
Oui, en fait, sur mon site internet, riyadsattouf.com, j'ai mis des coloriages gratuits de mes pages. Et aussi, on pouvait écrire les bulles. C'est-à-dire, j'ai enlevé les textes et j'ai enlevé les couleurs. Et donc, je les ai mis à disposition. Elles le sont toujours, d'ailleurs. Et c'était très marrant parce qu'il y a énormément de gens qui les ont téléchargées. Des enfants qui ont refait mes histoires. Et c'est très rigolo. Parce que quand on écrit une histoire, quand on fait une page de bande dessinée, je le fais toujours avec un but bien précis. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les gens avec mes... Et c'était incroyablement créatif.
Vous avez découvert des jeunes talents de la bande dessinée?
Mais il y en avait des très, très, très bons. Avec un sens du rythme très marrant. Enfin, c'était super bien.
Vous êtes, on l'a compris, un gros lecteur, vous-même. Est-ce que vous avez peur de la concurrence? Est-ce que vous avez peur en lisant de tomber sur un type, vous dites, ou une autrice, comme on dit maintenant, vous dites, mais ça, c'est quand même, il va me faire de l'ombre?
Non, ça n'arrivera pas.
Quel mauvais acteur, heureusement qu'il n'est que réalisateur.
Non, mais c'est le cours de l'existence, bien sûr, on aime. Mais c'est pas une peur, parce que je pense que quand on trouve ce qu'on aime faire, ce qui est terrible, je pense, qui rend malade peut-être quand on a peur de perdre ce qu'on a, c'est qu'on n'a pas vraiment trouvé sa place, peut-être. Alors moi, je sais que je fais exactement les livres que j'aimerais faire, tels que je les aimerais faire, avec l'éditeur que j'aimerais faire, de la façon... Ben voilà, personne, je suis tout à fait libre et en accord avec...
Alors, si je cherche la petite bête, est-ce qu'il n'y a pas une autre forme, un spleen qui pourrait venir du fait que justement, vous êtes au top, que vous avez fait exactement ce que vous vouliez dans la vie, l'Arabe du futur, les cahiers d'Esther, vous êtes un des plus gros vendeurs de BD en France. Est-ce que justement, à un moment, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux derrière ?
Vous voulez dire qu'il me faudrait bien un petit échec pour...
exactement,
comme Renaud.
Un petit bide, c'est ça qu'il vous faudrait peut-être.
Bah écoutez, en fait, non, il faut, pour parler sérieusement, en fait, c'est très douloureux pour moi de faire des livres parce que je ne suis jamais content de ce que je fais. Par exemple, là, je suis en train de faire la suite de l'Arabe du futur et à chaque fois que je me mets à ma page et que je vois mon crayonné, j'ai une sorte de nausée où je me dis, putain, c'est nul, c'est horrible. Vraiment, je le pense. En fait, c'est le dépassement de cette nausée qui fait que je continue à travailler. Et une fois que c'est fait, je me dis, ok, bon, c'est bon. Mais à chaque fois, il y a quand même un doute. Tous ces petits traits, ces crayonnés imparfaits que je fais avant, ça me rend un peu malade quand même. Je me dis pas, c'est gagné du tout. Parce qu'en plus, quand on fait des séries comme ça, c'est vrai que les gens... quelque part, ils ont une attente. Ça ne m'étonnerait pas que des gens aimeraient bien que je me plante ou des choses comme ça. Enfin, c'est énervant quand un type fait des BD qui marchent ou des films qui marchent. Et donc, c'est vrai que c'est stressant. Et donc, je me dis que la meilleure chose à faire est d'essayer de faire les choses le mieux possible, plus sincèrement possible. Voilà.
Eh oui. Moi aussi, j'essaye de faire le mieux possible et le plus sincèrement possible, mais parfois, je réalise que je n'ai pas le temps. Et donc, j'y vais comme ça.